Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Donc voilà, la parole est à vous. Merci à nouveau hein, à vous trois pour votre intervention.
Je vais prendre des interventions. Je voulais vous dire quand même deux choses. D'une part, vous avez une conférence qui a lieu lundi soir. Tu en as parlé?
Non, mais je peux la présenter.
Qui est d'Aurélien Bigot, qui a été cité.
Voilà, par, très bien. Aurélien Bigot, qui a été cité par Béatrice, on le fait venir à l'INP pour une conférence sur la transition énergétique des transports, lundi à 18h à l'ENSET, au centre-ville.
Voilà, vous trouverez des flyers à l'extérieur, il faut s'inscrire par un QR code. Moi, j'avais une autre chose à signaler aussi, c'est l'absence regrettable ce soir d'un collectif avec lequel j'ai travaillé aussi, qui s'appelle le PAD, Pensons l'aéronautique pour demain. C'est un collectif dans lequel il y a des associations, des syndicalistes, des salariés de l'aéronautique, et qui s'inquiètent du futur de l'aéronautique. Parce que le problème a été évoqué avec Béatrice en particulier sur cette nécessaire décarbonation du transport longue distance. Actuellement, les projections des compagnies aériennes et surtout des transporteurs, des fabricants aériens, c'est-à-dire Airbus et Boeing pour l'essentiel, c'est de continuer comme avant. Comme il se doit, donc avec des projections qui veulent passer de 4 milliards de passagers à l'année à 8 milliards en 2035, ce qui est une folie. C'est une folie, c'est quelque chose qui est totalement insoutenable. Et la gravité de la chose, c'est qu'à un moment donné, ça va percuter, on va sur un mur. Et pourquoi je tiens à en parler, c'est qu'on est à Toulouse, la capitale de l'industrie aéronautique, et donc il va y avoir des problèmes. Donc ce collectif a réfléchi à ces questions-là, il a sorti un document qui s'intitule moins d'avions et plus d'emplois, parce qu'il faudrait commencer à penser à reconvertir cette mono-industrie toulousaine à d'autres activités, sinon on aura des catastrophes. Là aujourd'hui, le discours officiel de Guillaume Faury et d'Airbus n'est pas soutenable, il faut en être conscient. Hein. Voilà. Cette alerte étant donnée, ils ne sont pas là ce soir parce qu'il n'y avait personne disponible, et c'est bien dommage. Ceci étant, donc, je prends les interventions. Attendez, laissez-moi repérer les doigts parce que ça va être difficile.
Merci aux intervenants, c'était très 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 intéressant. Je voudrais parler d'une ville que je connais bien, la mienne, Carcassonne, qui est une ville moche, bien qu'elle ait deux monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors juste par rapport à ce que tu viens de dire, Jean-Pierre, sur l'avion, un des projets majeurs de développement de la ville, pour la ville, le département et la région, c'est d'ouvrir une ligne aérienne Carcassonne-Paris. Après avoir fermé le train de nuit, bien entendu. Alors, ce n'est pas les mêmes responsabilités, mais on voit où les choses se situent. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, par rapport aux hypermarchés, Carcassonne était pendant longtemps la ville de France où le ratio hypermarché sur population était le plus élevé de France. Et nous avons le privilège d'être la dernière ville où un hypermarché a ouvert. Rocadest, ça s'appelle, 45 000 mètres carrés artificialisés, une petite trentaine de 1000 mètres carrés de commerce. La rue principale de Carcassonne, rue commerçante principale que nous appelons la rue de la gare, sur la moitié de la rue, entre la gare et la place Carnot, pour ceux qui connaissent, début juillet, 15 magasins fermés. Début septembre, 22 magasins fermés. Et ça continue. Nous avons 4 hypermarchés à Carcassonne, 6, 7, 8, je ne sais pas trop, supermarchés et une infinité de petites supérettes et autres. Et les commerces crèvent et on nous explique que le dernier Rocadest a été... Alors, je ne vous dis pas l'emplacement des parkings, puisque c'est totalement à l'extérieur de la ville. Avec comme argument, entre autres, par un des promoteurs de l'affaire, que, vous comprenez, les touristes qui arrivent de Narbonne, ils ne savent pas où ils vont pouvoir faire leurs courses. Donc, il fallait un hypermarché à l'entrée de Carcassonne, côté Est. Et deuxième argument, ça a été négocié avec les commerçants de centre-ville. Je connais les commerçants de centre-ville, ils n'ont jamais été au courant. Et juste, petite touche finale et je m'arrête. L'auteur de cette lettre qui avait été envoyée à la Commission nationale des commerces était le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne, qui avait des terrains à vendre à l'emplacement.
Donc, merci pour ce complément d'information qui n'était pas une question, qui n'appelle pas forcément de réponse.
Bonjour. Donc, moi, j'ai une question par rapport à la voiture électrique. Les projections qu'ils font sont fabuleuses, ça va créer des emplois, tout ce que vous voulez. Seulement, comment va-t-on fabriquer ces batteries électriques, avec quels matériaux et d'où vont venir les matériaux? Parce que si j'ai bien lu un petit article, on va aller le chercher au fond des océans. Et là, on nous assure qu'il ne va pas y avoir de problème, on ne va pas du tout abîmer. Et quand vous voyez la photo, elle représente un char d'assaut en train de ramasser des nodules métalliques au fond. Je veux dire, c'est ahurissant ce qu'on est en train de faire. Donc, pour moi, la voiture électrique, c'est mort d'avance, on va dire, à côté de ça. Qu'en pensez-vous de ce futur développement?
Donc la question des ressources naturelles et puis plus généralement une projection sur le plus long terme, parce qu'on est tous focalisés sur 2050, il faut qu'il se passe des choses, mais peut-être qu'on aura besoin de ressources après aussi. Quelqu'un veut répondre?
Non, mais du coup, je me méfie maintenant. T'as peur que je sois trop long? Non, en très court, c'est très problématique, la voiture. Enfin, vous l'avez vu dans le film précédent, là, il disait qu'il fallait 80 000 km en fait, pour que le bilan global de la voiture électrique commence à être comparable à celui d'une voiture thermique. Donc c'est vraiment pas du tout la panacée, quoi. Il y a des aberrations totales. Par exemple, une Tesla, la plus légère des Tesla, elle fait 1900 kg. Le modèle le plus commun, il fait 2200 kg. Donc c'est-à-dire, pour déplacer 70 kg, on va déplacer 2 tonnes. Ça c'est vraiment, en termes de rendement, d'efficacité énergétique, c'est vraiment un gros problème, quoi. Il y a ça, mais il y a aussi la fabrication des batteries, de l'exploitation des terres rares qui sont nécessaires sur certains éléments, etc., qui posent... En fait, une bonne part... Alors on dit que ça ne pollue pas la voiture électrique. Oui, ça ne pollue pas l'air que vous respirez dans la ville, donc c'est mieux en matière de qualité de l'air. Mais alors, les pollutions qui sont déportées, qui sont délocalisées, elles sont très importantes, quoi.
Oui, bonsoir, Jérôme Menami. Donc, je suis cheminot à Matabiau et je suis conseiller régional d'Occitanie, commission de transport en tant que cheminot, voilà. Donc, la voiture électrique, oui, je pense qu'on aura besoin quand même au fin fond des campagnes, parce qu'on n'arrivera peut-être pas à mettre des trains, des bus partout. Mais si on remplace 3 millions de voitures thermiques par 3 millions de voitures électriques, on n'y arrivera pas, hein. On aura les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Pour refaire le lien avec l'énergie, moi, au niveau de la SNCF, de l'histoire de la SNCF, Le ferroviaire n'a jamais été rentable. De toute son histoire, depuis le début, la moitié du 19e siècle, sa création, il n'a jamais été rentable. Il a tellement été peu rentable, c'est qu'en 1937, c'était des sociétés d'économie mixte, ce que tu expliquais tout à l'heure, hein. Il y avait la même chose dans le ferroviaire, en fait. C'était que des boîtes privées, c'était des économies mixtes avec des Rothschild derrière, hein, quand même. Et en 37, ils ont appelé au secours l'État et il y a eu la nationalisation de la SNCF. Et aujourd'hui, ce matin, il y avait M. Bussereau qui était devant la gare à Matabiau, M. Bussereau qui était ministre des Transports, qui a ouvert à la concurrence les trains de nuit et les trains d'équilibre du territoire, les intercités que vous pouvez connaître. Et on voit la catastrophe, hein, il n'y a quasiment plus de trains de nuit. Moi, donc ça c'était pour la partie historique des cheminots, faire la relation avec le réseau. En fait, c'est systèmes de réseau qui ont été nationalisés à un moment. Là, ils réapprennent, ils jouent à la dinette en privatisant et en nous faisant croire que ça va mieux marcher. Moi, aujourd'hui, en tant que cheminot, j'étais encore dans mon poste d'aiguillage hier après-midi. Ça marche plus, c'est une catastrophe ce qui arrive à la SNCF. On n'arrive plus à transporter les trains, les gens, et puis encore moins les marchandises. Hein, parce que 2007, il y avait un graphique, c'est l'ouverture à la concurrence. Ouais, c'était Raffarin, c'était Sarkozy. Enfin, on voit bien qu'en 2007, ouverture à la concurrence, c'est 1 million de camions en plus sur les routes. Hein. Et aujourd'hui, le ferroviaire, il faut relancer, mais il faut se dépêcher parce que tous les vieux qui ont le savoir-faire, ils sont en train de partir à la retraite, sauf si on n'arrive pas à gagner la bataille là, à 65 ans. Bon, voilà. Bref. Ça c'est mon côté cheminot. Sur ce que peut faire une région, je pense qu'on est dans une région Occitanie. Alors certes, il y a le train hydrogène, mais pour moi c'est une expérimentation. Il faut bien essayer quelque chose. On a une ligne entre Montrégeau et Luchon. On a moyen de faire l'électricité sur place et on va fabriquer l'hydrogène sur place. Et il faut essayer. Bien sûr qu'il y a, moi, je suis pas naïf, et il y a aussi des lobbying derrière au niveau d'Alstom et d'autres personnes pour aller là-dessus. Mais il faut bien qu'on essaie. À un moment, il faut bien qu'on trouve une alternative. Et je préfère avoir mettre des caténaires partout. Mais là, on essaie. Et on verra. Et si ça marche, je pense qu'il y a aussi un moment, comment on met les moyens dans la recherche aussi. Parce qu'aujourd'hui, la recherche en France, elle est quasi... Enfin, ils sont ses parents pauvres. Hein. Comment on permet aux chercheurs d'aller trouver des alternatives au niveau énergétique, au niveau transport? Bon, Hyperloop, c'est à la rue. Hein. Ils arrêtent tout, là. Ils nous ont pris pour un peu des rigolos. Voilà. Et moi, pour moi, le transport qui colle le moins, c'est celui qu'on ne fait pas, quand même. Hein. Et donc, à un moment, il faut reparler derrière. Le transport, c'est infini. On tire la ficelle, on peut aller jusqu'où. C'est la réindustrialisation. C'est comment on fait du circuit court, comment... Toutes ces choses-là qui sont derrière. Et l'aménagement du territoire. Et si on parle d'aménagement du territoire, c'est quel rôle de l'État dans cet aménagement du territoire? Enfin, aujourd'hui, on a Clément Beaune qui fait le cake en nous expliquant qu'il va mettre 2,8 milliards dans le ferroviaire. Moi, je serais plutôt dire, en tant que politique, que c'est 100 milliards qu'il faut. Si on veut vraiment développer le ferroviaire, c'est 100 milliards. Alors moi, ce n'est pas les 100 milliards de M. Farandou, patron de la SNCF, pour aller concurrencer la Renfe en Espagne. Hein. C'est 100 milliards sur les infrastructures pour développer le train. Donc la région Occitanie, on va ouvrir une ligne de chemin de fer là, sur les 7-8 ans qui viennent. On a réouvert la rive droite du Rhône là au mois d'août. Ça marche. Il y a les gens qui prennent le train. Avec une offre commerciale, bien sûr. Donc, avant de développer la gratuité, il faut d'abord développer l'offre. Derrière, on va rouvrir à l'Esbessège, on va rouvrir Mont-Réjolution. On ouvre. Ouais, sauf qu'à un moment, on a des contraintes budgétaires aussi. Et c'est là où l'État, il doit prendre toute sa part. Quoi. Pour redévelopper le réseau ferroviaire, et ben, à un moment, il va falloir aller chercher l'argent là où il est, dans la dernière décile là, qui fait 15 000 km à titre personnel en avion. Je pense que c'est ce côté-là, on pourra peut-être trouver des solutions. Et pour revenir un peu plus sur Toulouse, alors on parle de RER bien sûr, donc la région, nous on va faire des terminus partiels sur la région toulousaine, mais il y a la ZFE qui arrive et ça va être une catastrophe parce qu'il y a bon nombre de personnes qui vont plus pouvoir utiliser leur voiture. Alors l'idée est bonne, sauf qu'en face, qu'est-ce qu'on met en termes de transport collectif, de transport à vélo pour que les gens n'aient plus besoin de leur voiture? Et là on en est loin avec Monsieur Moudin et toute son équipe. Et ensuite, c'est sur l'énergie, et je vais terminer par ça, parce qu'après, je vais faire trop long. Le nucléaire, certes, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux au niveau décarboné. Certes, on a un problème avec les déchets. Et là aussi, on revient à la libération du marché, où on a arrêté les programmes Astrid et compagnie, et on a empêché la recherche. On a arrêté les recherches. Et donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui banané, avec peut-être un blackout éventuel. Tout ce qu'il y a derrière. Moi, après, le dernier message que j'ai faire passer, c'est que la politique, ça appartient pas qu'aux politiques. Hein. Moi, je suis élu depuis un an et demi, j'ai été syndicaliste avant, et je pense que chacun et chacune, on doit reprendre les choses en main et vraiment... on parle de démocratie. Quand on arrive à un moment des élections où on a des taux d'abstention aussi énormes, il faut se poser les bonnes questions et savoir comment, démocratiquement, on arrive à renverser les choses en s'intéressant à ce qui se passe autour de nous et pas simplement quand on nous annonce qu'il faut mettre des cols roulés et des doudounes pour cet hiver. Voilà, merci.
Ouais. On revient, donc à chaque fois, les transports nous ramènent aux politiques. Hein.
Juste vous reprendre sur un terme, vous avez dit au début le train n'a jamais été rentable. Si, le train c'est très rentable du point de vue de la planète, c'est très rentable du point de vue mais il n'y a pas que l'économie dans la vie. Le train c'est très rentable du point de vue du lien social. Et s'il y a quelque chose qui est vraiment pas rentable, c'est le camion, parce que le camion non seulement c'est pas rentable du point de vue de la vie de ceux qui les conduisent, de ceux qui habitent le long des voies où ils passent, et c'est pas du tout rentable du point de vue de l'argent public. Voilà, on parle de la dette SNCF, mais la dette de la SNCF c'est rien par rapport à la dette du camion. La dette du camion elle est gigantesque. Toutes les infrastructures où passent des camions, tous les ponts ils sont calculés pour des camions à 40 tonnes. Donc c'est un coût phénoménal qu'on n'a jamais mesuré, qu'on n'a jamais mis sur la table. Mettons demain la dette du camion. Parlons de la dette du camion. Arrêtons de parler de la dette de la SNCF.
Oui, bonjour. Je voulais apporter un complément et une interrogation sur les excellentes interventions d'Aurélien Bernier. Je suis assez vieille pour avoir connu la chasse au gaspillage dans les années 70. Et il se trouve que cette chasse au gaspillage, quoi qu'on en ait dit, elle a eu d'excellents résultats sur le plan des économies d'énergie. Et à l'époque, EDF était un service public 100% étatique, etc. Or, le même EDF, dans les années 80, a complètement massacré tout ce qui avait été fait en termes d'économie d'énergie, parce qu'entre-temps, on a commencé à mettre en service le parc nucléaire français, et que là, il s'est agi d'écouler une électricité qui devait être produite 24 heures sur 24. Donc, on a commencé avec le chauffage électrique, qui est une aberration en termes de rendement, si il en est. Ça a continué d'ailleurs sur une période plus récente avec la clim réversible et tous les moyens d'écouler une électricité qui est produite 24 heures sur 24 et dont on ne peut pas arrêter la production quand on n'en a pas besoin. Donc, même si je suis tout à fait d'accord sur le côté essentiel, si j'ai peu de goût pour le privé, je ne suis pas sûre que le retour d'EDF dans un giron strictement public, qu'EDF a d'ailleurs jamais réellement quitté, soit la clé du problème et soit surtout suffisante. On ne peut plus ignorer, je présume que tout le monde ici sait que le nucléaire est une technologie duale, mais depuis l'année dernière et que Macron nous a expliqué qu'il n'y avait pas de nucléaire militaire sans nucléaire civil et l'inverse réciproquement, je crois qu'il y a des enjeux là qui dépassent très largement la question du public ou du privé.
Alors, vous avez raison sur EDF qui... a été créé comme un service public et qui a fonctionné en tant que service public assez peu de temps, en fait. Je raconte dans le livre que j'ai sorti sur la propriété des systèmes énergétiques comment, en fait, le service public a été grignoté de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a mis à la tête d'EDF... Voilà, des dirigeants qui auraient pu être dans d'autres secteurs industriels, alors qui pour certains avaient le sens quand même du service public, mais à qui on a mis des objectifs de rentabilité qui faisaient que la stratégie d'EDF pouvait pas être une stratégie pure de service public, même si on a quand même réussi à électrifier l'ensemble du pays, même si on a instauré quelque chose qui est extrêmement important, qui est la péréquation tarifaire, qui fait que l'électricité, vous la payez le même prix quand vous êtes dans le 16e arrondissement de Paris ou quand vous êtes dans le fin fond de la Creuse ou du Lot-et-Garonne. Mais on a une logique marchande qui a guidé EDF, quasiment dès le départ, qui s'est énormément aggravé avec l'ouverture à la concurrence, mais qui ne date pas de l'ouverture à la concurrence. Et notamment, vous avez un choix qui a été quand même assez catastrophique de créer deux entités de service public, EDF et GDF, et d'avoir une concurrence entre les énergies. C'est-à-dire que, voilà, EDF avait des objectifs financiers, GDF en avait aussi, et à un moment donné, si il s'agissait d'aller installer du chauffage électrique, malgré les rendements mauvais qu'on sait, eh bien, EDF avait intérêt à vendre du chauffage électrique. Et donc, en fait, vous avez raison. C'est-à-dire que la propriété du capital ne garantit absolument pas un fonctionnement digne d'un véritable service public, de ce qu'on met, nous, derrière. Et les choix énergétiques en France ont été faits sans aucune consultation publique. C'est-à-dire que, voilà, ça a été des choix techniques, des choix de dirigeants d'entreprise, de l'État, tout ça a été un peu imbriqué. Mais on n'a jamais eu de débat public sur les choix énergétiques, comme on n'a jamais eu de débat public sur les grandes orientations d'aménagement, les choix de transport, etc. Voilà, donc il y a un chantier énorme pour faire de ces services publics, ou ce qu'il en reste, que ce soit EDF, que ce soit la SNCF, des services publics démocratiques. Et là, il y a une vraie responsabilité des élus, il y a une vraie responsabilité des citoyens, et il y a quelque chose à inventer, voilà, qui n'a finalement jamais existé. Parce que quand on a créé EDF et GDF, il y avait une urgence qui était de reconstruire le pays, que voilà, les élus ont estimé qu'on n'avait pas le temps du débat démocratique et qu'une fois que ça a été lancé, eh bien, on a continué. Et donc on doit se réapproprier les services publics, les grands choix énergétiques, les grands choix d'aménagement, etc. Et vous parliez tout à l'heure de l'hydrogène, mais regardez l'argent qui est mis sur l'hydrogène, regardez l'argent qui est mis sur les énergies renouvelables électriques. Je ne situe pas forcément les deux au même niveau, mais les deux sont des marchés a priori rentables pour les investisseurs privés. Donc, c'est là qu'on va mettre le pognon. Et regardez l'argent qu'on met sur la sobriété énergétique. Regardez l'argent qu'on met sur le vélo en France. C'est absolument ridicule. Et si on posait ces choix de façon démocratique, je ne suis absolument pas certain que tout l'argent de la relance irait à l'aéronautique, irait à la bagnole, irait à financer des fonds d'investissement qui développent de l'éolien ou à financer l'hydrogène. Non, on ne ferait pas ça. On irait sur des actions beaucoup plus efficaces, beaucoup plus intéressantes d'un point de vue environnemental et sans doute qui créeraient davantage d'emplois. Vous parliez du véhicule électrique. Aujourd'hui, la Chine a la main mise sur l'amont de la filière batterie, c'est-à-dire qu'elle maîtrise quasiment tout l'amont de la filière batterie, et l'industrie automobile, y compris en France, qui sait que la Chine a cette maîtrise sur la filière batterie, va produire en Chine. C'est-à-dire que maintenant, les usines qui s'ouvrent, c'est plus dans les pays d'Europe de l'Est, comme ça a été au départ, c'est plus au Maroc, où on a ensuite délocalisé parce que les coûts de production étaient encore plus bas qu'en Europe de l'Est. Aujourd'hui, vous avez des véhicules électriques, notamment Dacia, qui sont produits en Chine et qui sont importés, assemblés. C'est-à-dire qu'on importe la bagnole, on n'importe pas les pièces détachées. Vous voyez ? Donc, vous avez cet enjeu-là derrière de... Voilà, alors tout le monde parle de relocalisation aujourd'hui parce que c'est à la mode, mais la réalité, c'est qu'on continue à délocaliser et que le développement de des véhicules électriques vont accentuer les délocalisations. C'est ça la vérité. Que le développement des véhicules autonomes, connectés, etc., va accentuer la délocalisation industrielle. Parce que c'est dans les pays à bas coût qu'on sera capable de produire ces véhicules et de les vendre à un prix à peu près accessible. Alors peut-être que l'ingénierie se fera dans les pays occidentaux et restera en Europe, c'est là-dessus qui compte, mais la production industrielle continuera d'être délocalisée. Et si on n'a pas de réflexion sur cet aspect-là, cette division internationale du travail, et comment est-ce qu'on peut reprendre en main une production industrielle pour faire en sorte qu'elle corresponde véritablement aux besoins, on sera toujours dans une fuite en avant. Et voilà, d'un point de vue environnemental, c'est sans fin. C'est sans fin. On va continuer à piller les pays du Sud, on va continuer à délocaliser nos émissions de gaz à effet de serre.
Voilà. Oui, bonsoir. Merci pour toutes ces interventions. Le débat est assez riche. J'avais une question qui était complémentaire de la précédente, puisqu'on a pas mal insisté sur la question du poids des infrastructures, enfin de la position centrale des infrastructures, que ce soit sur l'énergie, sur les transports, etc. Donc avec la question, forcément, si on ouvre à la concurrence, c'est compliqué d'ouvrir une concurrence sur une infrastructure qui est par nature une situation de monopole. Donc tant qu'à être situation de monopole, autant qu'elle le soit, monopole public. Donc la question qui a été esquissée, c'est comment est-ce que ce monopole public, on s'assure qu'il répond aux besoins des citoyens, donc avec la question démocratique. Et moi, j'avais, en poursuivant cette réflexion-là, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que... on soit en capacité, nous, citoyens, de bien identifier quels sont les besoins, parce qu'il y a parfois des... Quand on change de modèle, c'est parfois difficile, et je ne suis pas sûr d'être aujourd'hui capable d'identifier les besoins de demain, parce que je ne les ai pas forcément éprouvés. Si j'ai toujours utilisé ma voiture, comment est-ce que je pourrais voir les avantages du transport en commun si je ne les ai jamais utilisés, et donc comment je pourrais planifier ? Et la question d'un autre niveau, c'est comment est-ce que en France, dans une décentralisation ou une centralisation assez imparfaite, où on n'a pas forcément encore franchi le pas, on fait de la planification là énergétique, mais plus généralement écologique, avec une ribambelle, un nombre important de décideurs publics pour l'instant, qui sont pas forcément coordonnés quand on va de la commune à l'intercommunalité, au département, à la région et à l'État, et puis on peut même aller au niveau européen. Voilà, donc il y a une limite qui n'a pas été, enfin je pense que j'ai pas entendu ni dans les documentaires ni dans la table ronde, c'est cette question de quelque part répartition et dilution des compétences qui est aussi un frein à la réflexion.
Qui se sent de répondre à notre table?
Vous m'avez fait une question sur mesure. Juste rapidement sur la définition des besoins. Aujourd'hui, on a des pouvoirs publics qui donnent l'impression qu'on a une stratégie d'aménagement du territoire, qu'on a une stratégie industrielle, qu'on a une stratégie pour le pays. C'est du pipeau. La stratégie industrielle, elle est définie par les industriels. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, l'État, ne fait que répondre oui aux demandes des industriels qui repèrent des marchés sur lesquels ils estiment qu'ils vont pouvoir faire des bénéfices et qui disent c'est ça l'avenir. Et ensuite, l'aménagement du territoire découle de ça. Et en fait, voilà, vous avez des ministres de l'industrie qui sortent des grandes phrases et qui parlent de stratégie. Il n'y en a pas. On est dans le cadre du fonctionnement d'un État libéral qui ne fait que répondre à la demande du privé. Et c'est pour ça qu'on va développer des énergies renouvelables électriques plutôt que des énergies renouvelables thermiques. Parce que le privé a un marché. C'est pour ça qu'on va sur l'hydrogène, c'est pour ça qu'on va sur la bagnole électrique, etc. Donc cette définition des besoins, enfin, vous dites, ça va être quoi les besoins dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Mais les besoins, c'est à nous de les définir. Les besoins, c'est de manger, c'est de se loger, c'est de se chauffer. C'est la culture, c'est tout un tas de choses essentielles. C'est pas de changer de bagnole tous les deux ans, c'est pas vrai. C'est pas de systématiquement prendre l'avion pour un week-end pour aller faire la fête à Barcelone alors qu'on pourrait faire la fête à Toulouse. C'est pas vrai. Et voilà, cette définition des besoins elle devrait faire l'objet d'un débat public. Et quand on dit qu'il faut réindustrialiser, quand on dit qu'il faut faire des choix de développement de filières, quand on dit qu'il faut relocaliser, la première question à se poser, c'est quelle est l'utilité? Voilà, et c'est ce débat qu'on n'a jamais. Et juste un mot sur la décentralisation. Entre les deux livres, celui sur l'énergie et celui sur la relocalisation, j'en ai sorti un en plein Covid, et puis j'en ai pas amené là, mais qui s'appelle l'illusion localiste, et où je raconte comment en fait la décentralisation et instrumentalisé pour finalement donner un semblant de pouvoir local, alors que on est dans une logique de concentration des pouvoirs. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses extraordinaires au niveau local, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'élus locaux qui se battent dans les institutions locales, mais ça veut dire que on n'a jamais tant parlé de décentralisation que depuis que le droit européen prime sur le droit national, que les décisions sont prises de plus en plus au niveau des institutions européennes et que les grandes multinationales, finalement, ont de plus en plus de poids sur la décision politique. Et donc, on a cette espèce de double mouvement où voilà, on essaye de décentraliser et on a un phénomène de concentration. Et ce qui est grave, c'est que cette décentralisation sert à casser des services publics qui étaient historiquement organisés au niveau national, et notamment celui de l'énergie. C'est-à-dire que cette péréquation tarifaire dont je parlais tout à l'heure, et qui est un vrai mécanisme de solidarité, et qui permet non seulement aux particuliers de payer le prix de l'énergie, pareil sur tout le territoire, mais qui permet surtout aux territoires les moins bien lotis de se développer parce qu'ils ne payent pas le vrai coût de la desserte électrique ou gazière, mais ils payent finalement un coût qui est mutualisé à l'échelle nationale. Eh bien, ça, c'est des acquis sociaux. Et c'est quelque chose qui est en train d'être cassé parce qu'on vous explique que l'important, c'est de payer le vrai prix, celui du marché, et qu'on instrumentalise la décentralisation en disant il faut produire une énergie locale parce que ce sera plus démocratique et ce sera plus proche des habitants. Mais en faisant ça, on casse l'unité du service public. Et il y aurait moyen de faire autrement. On pourrait très bien produire des énergies locales, mais avoir un système de régulation nationale qui permette d'éviter ça. Donc, il y a une instrumentalisation politique derrière ce local et la traduction institutionnelle qui est la décentralisation.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Bon, ça me passionne la sobriété et la politique, et je dirais que ce qui vient d'être dit pour l'énergie pourrait être dit pour l'eau, qui pourrait être à la fois le local et régulé nationalement. Mais ce n'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'a fait venir, c'est la question « Quelle énergie pour demain ?» Et j'ai deux questions sur le sujet, justement. Est-ce qu'il y a un point possible sur la recherche, on va dire fondamentale, la recherche hors entreprise de nouvelles énergies? Est-ce qu'il existe des pistes réelles d'énergie non polluante avec des travaux universitaires sur le sujet? Et la deuxième question, on a vu dans le premier film des possibilités de localisation de la production énergétique. Quelles sont là aussi les études sur ces productions locales d'énergie à la dimension d'une ville ou d'une entreprise qui permettrait d'éviter déjà les 30% de pertes dans le trajet?
Alors, Béatrice souhaitait rajouter un élément sur la question d'avant. Après, Philippe fera une courte réponse sur celle qui est posée. Moi, je propose de prendre une dernière question parce que l'idée, c'est pas d'aller jusqu'à l'épuisement des troupes. Y a énormément de questions, mais si on les prend toutes, voilà, on pourrait finir à minuit. J'en ai vu là-bas aussi. Et par contre, on peut discuter après autour du buffet plutôt qu'avoir une salle qui se vide petit à petit. Donc.
Ouais, sans être longue, dans la question d'avant, il y avait trois mots et trois tilts. Sur la demande, l'analyse de la demande, qu'est-ce que ça pourrait être dans les années qui viennent, et c'est exactement ça, en fait. Nous, on trouvait nulle part ce genre de démarche-là, de manière, on va dire, qui nous convienne. Donc on a dit, on va le faire nous-mêmes. Donc nous, c'est pas un débat public, hein, c'est des experts un peu dans chacun des domaines, experts y compris des praticiens, hein, c'est pas simplement des universitaires. Les universitaires sont des gens très très bien d'ailleurs, mais il y avait des praticiens des différents domaines, la culture, la santé, etc., et l'industrie, et essayer de se projeter pour essayer de prendre des hypothèses sur ce que pourrait être la demande. Donc voilà, donc c'est sur la table, c'est en accès libre, tout est gratuit, et puis on peut venir aussi. Donc moi, je représente une petite expertise, on va dire, sur le transport, mais il y a des tas de gens qui sont sur d'autres sujets à l'intérieur du Shift que vous pouvez solliciter aussi. Et effectivement, c'est complètement essentiel de faire cet exercice-là. Et nous, on en a fait un et voilà, c'est à disposition. Gouvernance, on a complètement senti cette chose-là aussi. Bon, notamment, je n'ai pas eu le temps tout à fait d'en parler, mais sur le tourisme, on appelle à ce qu'il y ait une gouvernance carbone du tourisme. Et ça, c'est mobiliser l'ensemble des acteurs, en commençant par le ministère. Actuellement, il est rattaché à Bercy, ce qui n'est peut-être pas forcément le rattachement le plus simple pour être mobilisé sur la transition énergétique, quoique, bon, on va pas faire de procès là-dessus. Et puis, il y a l'échelon régional qui est extrêmement important. Les régions, on a notamment vu l'exemple de l'Occitanie, avec le comité régional du tourisme aussi, qui fait plein de choses intéressantes avec la région. Il y a derrière tout un secteur très atomisé de tous les hébergeurs du tourisme. Donc, il y a toute cette réflexion sur la gouvernance, elle est complètement essentielle. Et déjà, voir si les gens sont alignés sur l'objectif et comment chacun peut s'inscrire pour que tout le monde tire dans le même sens. Et puis, troisième mot, il y avait la notion d'infrastructure qui est naturellement publique. Bon, là, c'est peut-être une question un peu plus technique, mais effectivement, nous, et en tout cas sur le secteur dont je me suis occupée, c'est 100 milliards pour l'infrastructure ferroviaire, c'est complètement ça, puisqu'on a dit 7 milliards par an pendant 15 ans, donc ça fait 100 milliards. Après, il y a une forme de pari sur le fait que cette infrastructure qui est complètement publique, complètement dans les mains de l'État, donc s'il décide de faire, il le fait, il n'y a pas de sujet. Ça suffira pour qu'il y ait des offres de transport qui se mettent en place. Moi, je pense que oui. J'ai toujours tenu cette ligne-là, on va dire, y compris quand j'étais à la SNCF, plaider pour l'open access, ça s'appelle. ça reste à discuter, voir s'il y a besoin d'une organisation publique qui descende au niveau des services de transport. Ça reste un sujet de discussion à l'intérieur du secteur, mais en tout cas, les 100 milliards sur les infras, on rejoint complètement la nécessité de le faire. Ça permet de moderniser et de développer un certain nombre de points de saturation qui ont besoin de développement. Donc, les besoins, on saura assez vite utiliser l'argent, il n'y a pas de problème.
Sur la question des besoins, je me permets de donner la référence du livre des économistes atterrés qui s'appelle « De quoi avons-nous vraiment besoin ?» qui aborde cette question. Je ne vois plus la personne qui a posé la question des besoins. Voilà.
Deux pistes pour répondre à la dernière question. Donc, alors, la dernière question, c'est de savoir est-ce qu'on n'a pas d'un modèle énergétique à venir, des énergies nouvelles qu'on découvrirait, sur laquelle la recherche fondamentale nous permettrait de peut-être nourrir des espoirs. Voilà. Alors, il y a une piste très lointaine, très incertaine, très prometteuse, mais aussi très incertaine, c'est la fusion nucléaire. Voilà, elle existe, mais on ne sait pas ce que ça donnera, si ça sera dans 50 ans ou jamais. C'est infiniment complexe. Après, il y a une piste très connue, très ancienne, et qu'on délaisse complètement, c'est l'économie, l'énergie que l'on ne consomme pas, c'est la première, c'est la plus importante, voilà. Et il y a tout à faire dans ce domaine-là. La rénovation énergétique, on en est à 1% des logements par an rénovés, donc ça n'avance pas, on piétine. Avec des dimensions qu'on n'a pas évoquées jusqu'à présent qui sont très intéressantes, par exemple le télétravail et surtout la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail, c'est un élément clé de la transition énergétique aussi, quoi. Voilà. Et pour répondre à la question d'avant, en deux mots, juste dans une idée d'un cadre, souvent il y a une confusion qui a été faite en pensant que le temps dans lequel on est, celui du néolibéralisme, c'est celui du marché libre. Mais pas du tout. Ça, il n'y a que quelques sociodémocrates pour y croire. Le marché libre, ça n'existe pas. Le moment néolibéral, c'est la captation de l'État par une couche de la société pour réorienter les grandes décisions d'argent public et les grandes décisions notamment par la fiscalité au détriment de l'intérêt général. Et tout l'enjeu du moment d'aujourd'hui, c'est de réinjecter l'intérêt général dans toutes les politiques publiques.
J'ai droit à la dernière.
Alors, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, oui, ça va faire 6, 7... Donc moi, je proposais d'en prendre une dernière et de s'autoriser à arrêter le débat parce que je vois les gens partir. Et par contre, de poursuivre derrière la discussion librement sans tenir les personnes. D'accord, on peut faire ça, on pose les questions libres. D'accord. Et puis on voit les réponses autour du buffet. Super, merci pour l'idée.
Oui, alors très rapidement, j'ai une remarque que je fais. Tout à l'heure, on a parlé là, du train de Montrégeau à Luchon. Alors je veux quand même informer que en fait, c'est très mal parti parce que cet été, les rails ont été aux endroits des passages à niveau ont été démontés et c'est recouvert d'un excellent asphalte que j'ai emprunté il y a encore 2 jours. Donc voilà, c'est une information, certains peuvent être intéressés, il y a peut-être un combat à mener. Maintenant, mes questions, rapidement, on n'a pas évoqué de manière directe les mobilités en secteur rural. On a parlé de l'urbain, du périurbain et de la grande distance. Or là, je crois qu'il y a quand même un problème qui est, sur lequel il va falloir être sérieusement inventif. La deuxième question, elle est liée au contexte général. On en a parlé, mais ça reste diffus. Mais ça a été indiqué là juste avant par M. Descamps, en filigrane, bien entendu. C'est que quelque part, comment peut-on avoir l'utopie de se dire que dans 20 ans, on a 10 fois moins de véhicules, ce qui nous ferait revenir à ce qui était en vigueur environ il y a 30 ans et qui se résoudrait en grande partie les problèmes. Bien entendu, il faut avoir une réponse adaptée pour que les gens puissent quand même circuler. Et puis je passe juste à mon voisin qui a un ouvrage à vous donner en référence.
Excusez-moi, c'était pour rebondir sur la dernière intervention de M. Descamps, même si j'y ai pensé avant. Il y a une question sur la recherche fondamentale et avant ça sur les moyens de la recherche. Je ne peux que conseiller à l'ensemble de la salle un ouvrage qui était paru en 2014 de Philippe Biwix, encore un ingénieur qui s'appelait « L'âge des low-tech », où il expliquait que notre fascination pour les hautes technologies était aussi mortifère dans le sens où elles sont toujours plus consommatrices d'énergie et de matière. Et on devrait plutôt réorienter l'économie de la connaissance et la recherche vers des manières de faire beaucoup plus conviviales au sens de Illich. Donc en essayant de moins consommer d'énergie justement pour chaque usage qu'on fait, donc dimensionner nos technologies non pas parce qu'elles sont cool ou parce qu'elles sont nouvelles, mais parce qu'elles sont vraiment efficaces. Et donc ça rejoint aussi les interventions de M. Bernier, ne pas chercher le profit mais plutôt l'efficacité. Même si ça ne vous fait pas manger, continuez à écrire des livres, ça nous donne à manger intellectuellement. Merci.
Donc on prend les 2 ou 3 dernières questions, mais sans répondre tout de suite, vous pourrez reprendre les débats dans la salle autour du buffet, ce sera tout à fait convivial. Voilà. Et sachant qu'en plus vous aurez des associations présentes qui peuvent aussi donner des réponses.
Oui, bonjour, juste une question, que pensez-vous de la politique du tout TGV, et du même LGV en particulier, qui est un désastre, question financement de désastre écologique avec les espaces qu'elle détruit. Et on a une supportrice ici avec la présidente de région qui veut à tout prix son TGV. Donc, et la captation aussi par l'intermédiaire des PPP des profits sur les infrastructures.
Moi j'avais un questionnement sur effectivement ce qu'on a pu voir dans le dernier documentaire où globalement j'ai vu beaucoup quand même de visages d'entrepreneurs souriants et confiants en l'avenir qu'ils allaient créer et pas beaucoup de réflexion sur nos modes de société. Et c'est quand même quelque chose qui me rend vraiment très triste qu'on puisse présenter la question écologique comme une question précisément purement technique et pas du tout réfléchir au fait que en fait une analyse technique sans projet politique mènera à rien. Et ça s'articule du coup justement à ce pour quoi on lutte le collectif La Voix est libre, notamment avec le fait qu'aujourd'hui on veuille créer une nouvelle autoroute Toulouse-Castres, mais que ce sera une autoroute écologique parce qu'il y aura des bornes électriques et le covoiturage sera facilité sur ces autoroutes. Et donc finalement, la question technique reprend juste la réflexion sur comment on organise nos vies et comment on organise l'urbanisation et combien.
Bonjour, c'est juste pour ajouter quelque chose par rapport à ce que dit mon collègue de La Voix Libre. Moi, je suis toujours un petit peu amer à venir au débat comme ça, aux présentations. C'est non pas parce que vous avez raconté, c'est très intéressant, mais moi je suis lecteur du Diplo depuis 10 ans, donc a priori, vous m'avez convaincu de rien, quoi. Juste donner des chiffres. Mais le problème où on est, je suis venu avec avec les collègues de LVEL, et c'est à Castres. Vous disiez tout à l'heure par rapport au, vous parliez de des éléments techniques, des ingénieurs. Ensuite, il faut une volonté politique derrière. Et à Castres, on se retrouve dans une situation assez incroyable où le débat public est complètement verrouillé. Il y a une espèce de désir maître qui est celui de Pierre Fabre, et dans lequel tout le monde se conforte. Vous verriez la... Moi, parce que je viens avec des chiffres, je rentre là-bas et je discute avec des gens qui ne veulent pas discuter de faits, qui sont vraiment dans un discours irrationnel, à tel point que si vous vous intéressez un petit peu au projet, vous voyez que les chiffres sont complètement bidonnés, et suffit de savoir faire un produit en croix pour le voir. Donc c'est ça, en fait. Bon, peut-être que vous n'êtes pas... C'est pas exactement votre domaine, mais je dis, dans la dernière Matrioshka, celle après le discours technique, celle après la tentative de débat public, c'est quoi qui reste après ça pour empêcher un truc comme ça, quoi, un projet?
Merci. Alors, vous ouvrez la porte sur la LGV, sur l'autoroute, sur des grands débats. On va pouvoir en discuter tout à l'heure, parce que là, on ne va pas résoudre ça en deux secondes. Je reprends encore une remarque.
Bon, moi, je suis en train de soulever peut-être un paradoxe. On a parlé de l'industrie de l'aviation, des compagnies aériennes, etc., etc., et qu'il fallait réduire le nombre de lignes parce que c'était une catastrophe écologique. Oui, c'est un fait. Mais comment peut-on gérer, comment peut-on faire face à cette industrie mondialisée, énorme, vous l'avez abordé, madame, qu'est le tourisme? Comment peut-on réduire les voyages longue distance, et en particulier les lignes aériennes? Comment fera-t-on face à l'industrie hôtelière touristique qui font vivre maintenant de nombreux pays? Je pense en particulier à la Roumanie, à la Bulgarie, les parties pauvres de notre Europe. Eh bien, comment faire? Là, il y a un paradoxe qui me semble...
Juste un étonnement. Copenhague, on n'a pas vu une trottinette. C'est interdit là-bas?
Peut-être une réponse. Non, bon, allez. Non, je vous invite. Alors, le buffet est servi. Vous pouvez y aller. Merci à vous pour votre participation.
Merci encore
et aux questions posées qui étaient, je crois, tout à fait pertinentes. Et bon, si on n'a pas refait le monde, on a au moins pu en débattre. Merci. À tout de suite.
Même audio. Une mémoire sonore.